En ce vendredi, la Fabrique de l'Histoire vous propose l'enregistrement d'une émission spéciale à la Sorbonne. C'était samedi dernier avec Sorbonne Université, le journal La Croix et le magazine L'Histoire. C'était le deuxième volet de Forum France Culture enregistré à la Sorbonne dans le Grand Amphithéâtre sur le thème du sexe et du pouvoir. Quatre émissions de savoir et de connaissances de France Culture étaient rassemblées ainsi que la grande table, les chemins de la philosophie. Entendez-vous l'écho ou encore la méthode scientifique? Et nous vous proposons donc la totalité de ces enregistrements enregistrés samedi dernier. Pour notre part, nous traitions de la question des révolutions sexuelles. Bonjour et merci d'être aussi nombreux ce matin par ce froid. Dans cette journée de Forum de France Culture, centrée après les débats des derniers mois sur les relations entre sexe et pouvoir, nous allons nous demander avec nos quatre invités ce matin si les révolutions sexuelles dans les rapports donc entre les sexes sont les moteurs de l'histoire. Nous avons en effet l'habitude de considérer que les progrès démocratiques qui sont liés à l'émergence d'une révolution, une révolution politique par exemple, vont de pair avec une évolution des rapports entre les sexes. Nous allons donc soumettre cette idée, donc révolution politique d'un côté, révolution sexuelle de l'autre, à l'exemple des révolutions du 18e, 19e et 20e siècle avec nos quatre invités. Bibia Pavard, elle est maîtresse de conférence à l'Institut français de presse de l'Université Paris 2. Elle est auteure de « Si je veux, quand je veux, contraception et avortement dans la société française » paru aux presses universitaires de Rennes. Jean-Christophe Abramovici, il est professeur ici même à Sorbonne Université, spécialiste du 18e siècle en particulier. Il nous en parlera avec Clyde Plumosil, qui est également spécialiste du 18e siècle. Elle est chercheuse et secrétaire générale du LABEX « Écrire une histoire nouvelle » de l'Europe et auteur de Prostitution et Révolution chez Champvallon, qui est paru il y a 2 ans chez Champvallon, et Michel Perrault, que je ne présente plus aux auditeurs de France Culture en tous les cas, ils la connaissent depuis longtemps, historienne et également pionnière de l'histoire du genre et de l'histoire des femmes en France. Je vais d'abord vous demander, Michel Perrault, si cette notion de révolution sexuelle est une notion valide. Elle l'est pour le XXe siècle, on le sait. Mais est-ce que c'est une notion valide quand on repart dans le passé, par exemple, pour le 19e ou 20e siècle ?
Il faudrait d'abord s'entendre sur ce que veut dire révolution. Généralement, on a l'idée de changements rapides, brutaux, liés à des événements. Ce n'est pas absolument le cas des rapports entre les hommes et les femmes. Ça se fait sur la plus longue durée, voire sur une très longue durée, comme l'a montré, par exemple, Françoise Héritier. Par conséquent, ce n'est pas du même ordre, mais les révolutions, et notamment les révolutions politiques, surtout à partir de la Révolution française, bien sûr, ont beaucoup d'importance pour les changements entre les hommes et les femmes. Au fond, les révolutions politiques qui sont gérées par les hommes, qui ont le pouvoir, et les femmes n'y sont généralement pas admise, mais elle crée des brèches dans les systèmes de pouvoir. Et dans ces brèches, les femmes s'infiltrent. Elles arrivent, elles lèvent la main et elles disent « Et nous ?» Nous voilà. C'est vrai pour la Révolution française, Olympe de Gouges, etc. C'est vrai en juillet 1830, avec la surrection d'une presse des femmes, l'opinion des femmes, la parole des femmes, remarquable. 1848, c'est encore beaucoup plus vrai. La Commune, tout le monde pense à Louise Michel, André Léo et toutes ces femmes qui ont développé à ce moment-là une revendication sur l'éducation des femmes. Et 68, alors là, il faudra en parler.
On en parlera avec nos autres invités. Alors cette notion justement de révolution sexuelle, qu'est-ce que vous en pensez, Clyde Plumosil?
Ben je vais continuer le fil ouvert par Michel Perrault. Je pense que effectivement, qu'entend-on par révolution? Et si on peut peut-être ne pas dire que le privé est politique en 1789. En tout cas, il est politisé. Et je pense que la Révolution française, qui est un peu cette scène primitive sur laquelle se sont construites les révolutions contemporaines, introduit le fait qu'une révolution politique ne peut pas se faire sans une révolution des rapports entre les sexes. Quand bien même cette dernière n'aboutit pas. En fait, elle, effectivement, comme Michel Perrault le disait, c'est... Les révolutions ouvrent des brèches, ouvrent des horizons des possibles dont les femmes se sont emparées. Et ce sont les femmes qui ont mis les révolutions politiques face à leur devoir, face au fait qu'elles devaient tenir les problèmes, les promesses plutôt que les problèmes d'universalisme qu'elles formulaient. Et par rapport, pour ce qui est de la Révolution française, qui est celle que je connais le mieux, c'est vrai qu'il faut voir qu'elle nous a légué un héritage paradoxal, puisqu'à la fois elle proclame l'émancipation universelle de tous les citoyens, et donc aussi de toutes les citoyennes, tout en reléguant les femmes en dehors de la sphère politique légitime. Et c'est de ce paradoxe que vont naître les révolutions sexuelles des siècles à venir.
Jean-Christophe Abramovici, même question. Cette notion de révolution sexuelle est-elle valide pour le XVIIIe siècle, sur lequel vous travaillez également ?
Oui, on vient de le dire, la révolution française, qui est un moment démocratique essentiel, n'est pas favorable aux femmes. Et on peut même suggérer que c'est un terminus ad quem de ce qui s'est passé, d'une évolution qui n'a pas été favorable aux femmes durant le XVIIIe siècle. Si on regarde un petit peu le temps un peu plus long, sans doute le XVIIe siècle et surtout la fin du XVIIe siècle était une période plus favorable à l'idée d'égalité entre les deux sexes. On peut penser à l'ouvrage de Poulain de la Barre, de l'égalité des deux sexes, 1673, qui est un texte absolument, alors un petit peu isolé, qui n'a pas une très grande écoute, mais qui est un texte radical, cartésien, et qui affirme l'absolue égalité entre les deux sexes.
Et pourtant, en 1673, on n'est pas dans un contexte de révolution politique.
Non.
Louis XIV a pris le pouvoir et il va y rester longtemps, en l'occurrence.
Il y a la révolution anglaise qui est quand même...
Effectivement.
Mais ce n'est pas en référence à cette révolution que Poulain de la Barre écrit. Mais c'est une période où des mouvements d'émancipation, alors qui concernent surtout les milieux aristocratiques, se sont produits et où, pensons à une figure comme Ninon de Laclos, certaines femmes peuvent prétendre, par exemple, puisqu'on va parler de sexualité, assumer, prendre en charge leur propre sexualité. Et le XVIIIe siècle, à cet égard, est plutôt, me semble-t-il, une période de régression. Voilà.
Bibia Pavard, sur le XXe siècle sur lequel vous travaillez, cette notion même de révolution, qui est une notion politique, et Michel Perrault l'a bien dit en ouverture de notre discussion, c'est l'émergence de quelque chose, c'est l'insurrection, c'est l'arrivée de droits politiques qui donc viennent bousculer l'ordre ancien. Ça ne colle pas toujours non plus avec le travail que vous menez sur les évolutions plutôt que les révolutions, en l'occurrence au XXe siècle.
Oui, tout à fait. Alors même pour le XXe siècle, il faut questionner cette notion de révolution sexuelle et de révolution entre les sexes. Alors évidemment, il y a des événements qui sont marquants au XXe siècle, peut-être pas des révolutions politiques, mais des guerres mondiales qui ont aussi joué un rôle évidemment accélérateur à la fois sur ces questions de rapport femmes-hommes et de rapport à la sexualité. Il y a évidemment mai-juin 68, on y reviendra, mais je suis tout à fait d'accord aussi pour dire qu'il faut plutôt réfléchir en termes de séquences, de transformations lentes, de moments d'accélération plutôt que de ruptures brutales sur ces questions.
Alors, commençons avec vous deux, les deux 18e-istes, en l'occurrence Jean-Christophe Abramovici, et avec vous, Clyde Plumosil. Je disais que vous aviez travaillé sur la question de la prostitution, un livre absolument exceptionnel, publié il y a 2 ans, donc chez Champvallon, sur justement ce paradoxe. Parce que tout compte fait, on veut penser qu'une révolution aussi importante pour la France, en tous les cas que la Révolution française, a été à la fois une révolution dans le domaine politique et dans le domaine des mœurs, pourrait-on dire. Or, ce que vous nous expliquez, que ça n'est pas le cas à partir de cet exemple de la prostitution. Vous pouvez développer vous-même, et puis je donnerai la parole ensuite à Jean-Christophe Abramovici sur ce point.
Alors, donc, il faut effectivement opérer une série de cadrages, c'est-à-dire que l'émancipation politique promue par les révolutionnaires se traduit de fait dans le domaine des libertés privées, puisque il faut rappeler que quand bien même les femmes n'ont pas eu accès au droit de vote, elles ont eu la possibilité de demander le divorce, le mariage à partir de 1791 est défini comme un contrat, et à partir de 1792, ce contrat peut être rompu au nom d'un consentement mutuel, ce qui est une grande grande progression pour la liberté des femmes, puisque d'ailleurs ce seront essentiellement des femmes qui demanderont le divorce jusqu'à ce que la chape de plomb du Code civil vienne refermer ce petit espace d'émancipation. Dans le domaine des libertés individuelles, on a également le fait que hommes et femmes deviennent égaux devant l'héritage, la reconnaissance de droits pour les filles mères ou pour les enfants naturels. Donc on a un ensemble de dispositifs qui viennent libérer d'une certaine manière les rapports domestiques. Mais néanmoins, ces dispositifs sont limités et la prostitution est une sorte de cas limite, puisque d'un côté, en 1791, elle est dépénalisée au nom de la libre disposition de son corps. Les révolutionnaires balayent un peu ça sous le tapis en se disant « bon, on n'en parle plus, on sort la prostitution des différents codes de loi, donc code de police, code pénal, et on laisse finalement aux individus dans l'espace public le soin d'aménager la liberté des prostituées. » Sauf que on a un appareil policier qui est celui dorénavant des citoyens, qui vient régénérer l'espace public, qui lui continue de stigmatiser sur le terrain ces femmes qui pratiquent la prostitution. Donc là, pour le coup, on voit que cette question de démocratisation, par exemple, du sexuel, qui aurait pu être portée par la Révolution, qui se joue un peu dans le cadre du mariage, pour les femmes de mauvaises mœurs, pour les femmes jugées infâmes, les bonnes mœurs républicaines continuent de les tenir, si vous voulez, aux lisières de la communauté des citoyens.
Et vous dites bien dans votre livre, Clyde Plumosil, que ce cas de la prostitution pendant la Révolution française permet d'interroger les totems que l'on a habituellement, à savoir la citoyenneté, l'égalité, l'universalité des droits et les tabous aussi, l'exclusion, la différence, le contretemps dans l'émancipation de l'universalisme républicain, parce que effectivement on va voir naître en même temps dans cette révolution l'idéal de la conjugalité républicaine, c'est-à-dire l'idéal, c'est le couple qui va ensuite marquer tout le 19e siècle en l'occurrence.
Oui, tout à fait. Je pense que à ces deux niveaux de votre question, le cas de la prostitution permet de montrer que la condition citoyenne en révolution est une condition plurielle. Il y a des degrés de citoyenneté, actif, passif, donc actif avec l'ensemble des droits politiques et civils, et passif, juste la citoyenneté civile, c'est le cas des femmes. Mais aussi, on a des formes de citoyenneté diminuées dans l'espace public, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un moindre droit à l'espace de la cité. C'est le cas des prostituées, elles n'ont pas le même droit de libre circulation, par exemple, dans l'espace public. Elles n'ont pas le même droit à la protection des autorités publiques, puisqu'elles sont stigmatisées en dehors de la loi, etc. Et donc, par rapport à la question que vous formuliez sur le fait que ça permet de revisiter, du coup, les totems de la période révolutionnaire, ce qu'on voit avec ce cas de la prostitution, c'est que, de fait, l'idéal de ce que Anne Verjus a nommé le conjugalisme républicain, qui fait de la famille, mais plus particulièrement cette fois-ci du couple, du noyau, donc mari-femme, la base de la société démocratique, tient à l'écart tout un ensemble d'individus qui ne rentrent pas dans ce schéma familialiste, conjugaliste, qui est prôné par les révolutionnaires, et qui est donc le schéma qui donne des droits aussi aux individus.
Jean-Marc Abramov, ici, sur ce paradoxe, effectivement, de révolution politique qui ne s'accompagne pas forcément d'une révolution pour toutes et tous ceux qui vivent dans la société de la fin du XVIIIe siècle.
Pour essayer de comprendre les éléments que vient de rappeler Clyde, à mon avis, il est très important, puisque je parlais d'une évolution peu favorable aux femmes pour le XVIIIe siècle, d'évoquer les sciences naturelles et le discours médical. Le discours médical à l'égard des femmes, à destination des femmes, se montre au XVIIIe siècle à la fois beaucoup plus concerné et en même temps présente le corps féminin comme absolument catastrophique, soumettant la nature marâtre, soumettant la femme à des séries de révolutions corporelles absolument terribles. Il ne faut pas être femme quand on lit ces traités. On se dit que c'est absolument l'horreur. Et la conséquence de ce discours, en apparence bienveillant, c'est justement de suggérer que les femmes seront plus protégées en restant chez elle. Et donc, le fameux enfermement dans la sphère familiale qui va marquer la condition féminine pour tout le XIXe siècle, me semble-t-il, se prépare dans les têtes au travers du discours médical. Et si je peux prendre un exemple très précis et inviter les spectateurs comme les auditeurs de France Culture à les vérifier sur pièce, à les regarder dans l'encyclopédie. Et on dispose depuis quelques semaines d'une magnifique site Encre, une nouvelle édition collaborative de l'encyclopédie. Allez voir
l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert.
Allez voir planche de la matrice ou de l'utérus, qui est une magnifique planche dessinée par Eisen. Et si on la met un petit peu à distance, qu'est-ce qu'on voit ? Une robe. Une robe, c'est très clair que Eisen pense à une robe. Et c'est une image qui m'a toujours été, pour moi, très symbolique. On invite la femme à se glisser dans la robe de sa matrice, qui est une manière un petit peu de préparer justement cet enfermement dans la sphère familiale.
Clive, vous... Oui, bah alors je suis effectivement tout à fait sensible à ce que vient de dire Jean-Christophe Abramovici. Cette naturalisation de l'infériorité féminine, effectivement, on la retrouve bien sûr portée par le discours des Lumières, hein, avant même qu'elle le soit par le discours révolutionnaire. Et on a cette phrase qui circule de siècle en siècle, qui est en latin « tota mulier in utero », donc « toute la femme est dans son utérus », et qui se retrouve ici donc dans cette planche matricielle sur la matrice féminine. Et c'est intéressant parce que ce discours sur la nature féminine, en révolution, il va être remobilisé à partir surtout de 1793 pour justifier l'exclusion des femmes. Le grand discours du député Amar sur l'exclusion des femmes des clubs politiques, le 9 Brumaire en deux, donc le 30 octobre 1793, justement utilise cette rhétorique de l'infériorité féminine au nom de la nature pour justifier leur exclusion des clubs politiques, de la tribune des assemblées et surtout le fait qu'il y ait cette partition des sphères de compétences, une sphère politique pour les hommes et une sphère privée pour les femmes. Et il faut voir que ce discours qui n'était pas nécessairement présent au début de la Révolution le devient sous l'effet de la politisation des femmes des classes populaires, notamment sous la Révolution française, et qu'elles mettent les révolutionnaires devant leurs propres contradictions, à savoir l'universalité des droits et la réalité pratique de l'inégalité entre hommes et femmes.
Michel Perrot, dans la série d'émissions que vous avez faites sur France Culture qui s'appelait « Mon histoire des femmes », qui était une longue série qui avait donné lieu ensuite à un livre publié au Seuil, vous expliquez que ce XVIIIe siècle dont on est en train de parler était le moment où la femme devenait son sexe. C'est-à-dire que la femme devient son sexe, qui l'absorbe complètement, expliquez-vous. Et vous disiez que il lui faut donc, ce que nous expliquent nos deux précédents interlocuteurs, la protection de la famille, il lui faut l'ombre de la maison, la paix du foyer, et c'est là où elle se trouvera, d'une certaine façon, le mieux pour la société qui se crée au moment de la Révolution française et ensuite au XIXe siècle.
Le XIXe siècle est très paradoxal. Ce grand siècle romantique est aussi un siècle de l'organisation. Et il organise la démocratie, et la démocratie repose sur la division des sexes dans leur rôle, dans leurs fonctions, dans leurs espaces. Tout ça justifié par la nature, et une nature médicalisée, comme on vient de l'évoquer à l'instant. Mais tout ça est très contradictoire, par ailleurs, parce que la médecine fait des progrès considérables au 19e, elle continue à ancrer les femmes dans leur corps, la femme une éternelle malade, dit Michelet. Michelet, le grand républicain.
Le grand républicain qui surveille sa femme au point de surveiller les flux de sa femme. Et donc, dans son journal, on est très étonné de le voir en train de regarder tout ce que fait sa femme et le corps de sa femme.
Voilà, il est à la fois émerveillé et complètement fasciné par le corps de sa femme, mais un corps naturalisé complètement, absolument. Charcot, l'hystérie. On vient d'évoquer à l'instant l'utérus, etc. C'est la grande mise en scène de l'hystérique par Charcot. Mais tout ça est quand même très contradictoire parce que, en même temps, les médecins découvrent le principe de génération. On commence à dire que les femmes ont un rôle dans la génération.
Alors qu'auparavant, non.
Non, exactement. On commence à le dire mezzo voce. On commence à dire que si elles ont du plaisir dans l'amour, ça serait peut-être pas plus mal. Hein ? Alain Corbin a montré très bien ça dans ses écrits. Et d'autre part, en parlant de l'hystérique, on l'observe, on la pense comme un sujet, malgré tout. Freud va arriver. Et au milieu de toutes ces contradictions, la femme est aussi, les femmes sont en train de devenir des sujets. Mais tout cela couvert par l'ordre politique républicain, progressivement, pas naturellement en France, progressivement, et la République, elle est absolument fonctionnelle. Elle pense que pour le bien de la société, il faut vraiment qu'il y ait deux sphères, publiques pour les hommes, privées pour les femmes.
Ce qui explique d'ailleurs leur exclusion du droit de vote, par exemple, alors que tout le monde pourrait espérer avoir le droit de vote, il va falloir attendre encore très longtemps avant que les femmes ne l'obtiennent.
Parce que la République est quelque chose de si noble qu'il faut qu'elle soit virile. Seuls les hommes peuvent porter la grandeur de la Révolution, la grandeur de la République. Ça ne veut pas dire qu'ils méprisent les femmes, pas du tout. Il n'y a pas de complot contre les femmes. Mais à condition que les femmes soient des épouses, des mères, des compagnes. Voilà. Et la politique n'est pas pour elles. Et il faut bien dire que la majorité des femmes auxquelles on offre des fleurs, on leur ouvre les portes, on est courtois, on est galant, on leur offre des fleurs. Beaucoup d'entre elles, au fond, se sentent pas si mal que ça là-dedans. Et du coup, elles disent « Oh, la politique, c'est pour les hommes. C'est pas notre affaire. »
Elles intègrent l'idée qu'on leur a mise dans la tête, d'une certaine façon. Absolument. Enfin, cette idée selon laquelle elles ne bénéficieraient pas de la sphère politique.
Tout à fait. Il y a tout le problème du consentement qui est particulièrement important dans un régime qui s'achemine vers la démocratie et où par conséquent il faut que les sujets consentent au rôle que l'on leur donne. C'est pourquoi il faut décrypter toutes ces choses avec tous les éléments possibles.
Oui, alors il y a tout de même quelque chose de très particulier, c'est la permanence du regard porté sur la virginité des filles. Pauline Mortas a publié récemment un livre tout à fait étonnant qui s'appelle « Une rose épineuse » où elle explique cette obsession de la virginité des filles dans un siècle qui, faut le rappeler aussi d'ailleurs, est un siècle marial, puisque Marie revient au XIXe siècle de façon très forte dans l'imaginaire catholique en particulier. Et donc, cette virginité des filles reste encore très importante, comme dans les siècles précédents, d'une certaine façon.
Pureté des filles, pureté des femmes, les femmes tabernacles, de la génération aussi, surtout pas de bâtards, il y en avait plein, il y en avait beaucoup. Puisque la contraception n'existait pas, ou si peu, enfin, avec des moyens dont nous parlerons peut-être. Et par conséquent, oui, le corps des femmes est l'honneur des familles dans la légitimité du mariage et du couple. Et certaines femmes, contraintes au couple, l'acceptant, se mettent à dire « et si ça pouvait être un mariage d'amour ?»
Et cette conjugalité qui a été mise en évidence par le travail, Le Bon Mari en particulier, d'Anne Verju, elle perdure tout au long du XIXe siècle, en l'occurrence Clyde Plumosil, mais elle laisse, comme vous l'avez dit pour la Révolution française, beaucoup de gens sur le bord de la route. Ceux ou celles dont le désir, en l'occurrence, sexuel, ne correspond pas à cette norme que l'on veut mettre en place. Qu'il soit d'ailleurs homosexuel, le mot est inventé bien plus tard en l'occurrence, qu'il soit hétérosexuel et ne rentre pas dans la norme, qu'il ne veuille pas fonder un couple par exemple, tout cela pose un problème à cette société du 19e siècle, Clyde Plumosil et puis Jean-Christophe Abramovici.
Oui, alors ceux qui ne veulent pas rentrer dans le moule et puis ceux qui n'en ont pas les moyens, puisque se marier, ça demande d'avoir un capital. C'est vrai au 18e siècle, ça l'est encore au 19e siècle. On dit alors qu'il s'agit de s'établir et que qu'il s'agisse des couples bourgeois ou aristocratiques dans lesquels survivent une sorte de système de dot ou des couples des classes populaires, il faut avoir un petit pécule pour s'installer.
Donc, je lisais hier un texte autobiographique d'un grognard de Napoléon qui, une fois revenu de toutes ses batailles, 25 ans de bataille depuis la Révolution française jusqu'à la fin et à la chute de Napoléon, dit « Je n'ai plus qu'une chose à faire, demander mes droits, obtenir de la Restauration qu'il puisse continuer à toucher une demi-solde d'une certaine façon, et me marier. » Et il est obligé de se marier parce qu'il a des membres qui ont été touchés par la guerre, d'une certaine façon. Il est obligé de se marier avec une femme qui n'a que 3 robes et 2 paires de bas et qui n'a pas d'argent à lui donner. Mais ça lui permettra, d'une certaine façon, de s'installer au retour de ces guerres. Donc, on voit bien, effectivement, que cette question de la dot est une question essentielle pour le 19e siècle.
Et ça fait aussi appel au fait qu'il faut toujours penser, non seulement les questions de sexe en révolution, à la croisée des questions de classe aussi. Parce que cette idéologie familialiste, conjugaliste, est une idéologie bourgeoise. Cette sacralisation de la virginité n'est pratiquement possible que pour des familles qui ont les moyens de préserver leur fille et de leur faire faire un bon mariage. Or, on sait que dans les milieux ouvriers, au 19e siècle, et dans les classes populaires déjà du 18e, le concubinage est la norme. Donc, de fait, il faut toujours être attentif à l'écart qu'il y a entre des discours théoriques qui séparent les hommes, les femmes, qui organisent leur mode de relation, et les réalités des pratiques individuelles qui souvent les débordent et qui permettent du coup aux révolutions qui suivent celles de 1789 de pouvoir déstabiliser un peu plus ces schémas.
Oui, Jean-Christophe Abramovici, on a d'ailleurs d'une certaine façon des lunettes qui ont été faussées par les révolutions sexuelles du XXe siècle dans le regard que l'on peut porter sur le 19e et le 20e, puisque par exemple on a redécouvert au milieu du 19e, du 20e, Sade par exemple, dont vous êtes un des spécialistes, et on a voulu voir en lui l'apôtre d'une liberté sexuelle, mais on a oublié combien il était marqué par cette question de classe. Cette liberté sexuelle n'était accessible que parce qu'il était de la classe à laquelle il appartenait.
Oui, je pense que cette dimension sociale est très importante. Alors, bien sûr, Sade, il faut pas le généraliser, c'est un apax, mais...
Oui, c'est-à-dire c'est un cas unique.
Un cas unique, mais en même temps, un cas tout à fait intéressant, puisque par rapport justement à ce que Clyde Plumosil rappelait tout à l'heure, il a lu justement les réglementations autorisant la prostitution de 1791, et ça devient dans le pamphlet intégré à la philosophie dans le boudoir, une espèce de droit à... profiter de n'importe quelle femme, une d'obligation, c'est-à-dire qu'il perçoit parfaitement la révolution sexuelle bourgeoise en train de se mettre en place, et il en perçoit les contradictions et il les pousse à son extrême. Mais pour l'autre aspect, à mon avis, de cette dimension sociale qu'il faut prendre en compte, même si elle est peut-être moins agréable à rappeler, il y a aussi, avec la révolution de 89, l'arrivée au pouvoir de gens issus de classes populaires, et dont il n'est pas certain qu'ils avaient, en termes de rapport
de sexe,
une vision très égalitaire. Et on en a quelques échos. J'ai beaucoup étudié la littérature pornographique des 17e, 18e et de la Révolution. On voit apparaître dans les textes pornographiques de la Révolution, qui sont à moitié pamphlets, des discours anti-femmes d'une extrême violence.
Bah, et je prendrais juste de se souvenir de la Gourdan, par exemple, qui était la grande tenancière de maison close d'avant la Révolution française et du début de la Révolution française, et des dizaines de pamphlets qui la mettent en scène d'une certaine façon, ou Marie-Antoinette. Mais présentée en tant que prostituée.
Voilà, mais là, à la limite, c'est justement une vengeance, pourrait-on dire, par rapport aux dominants. Mais si vous prenez un texte qui s'appelle « Les travaux d'Hercule » ou « La rocambole de la fouterie », 1790, qui présente, sur un mode soi-disant humoristique, différentes positions sexuelles. Il y a quand même l'une page qui m'a toujours arrêté, qui présente la bonne manière ou celle du bougrement patriotique Père Duchesne, et qui est... Alors, le Père Duchesne, vous savez, c'est une figure de la Révolution populaire, même si elle est ambiguë, utilisée par les modérés, les jacobins modérés. Passons. Cette manière bougrement patriotique du Père Duchesne s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol. C'est une page d'une violence qui justifie que la femme soit absolument violée comme norme de l'acte sexuel conjugal. Et ce discours d'une extrême violence, il a forcément des résonances auprès d'un public populaire.
Oui, c'est toute la question tout de même, et c'était évoqué par Clyde Plumosil et par vous tout à l'heure, Michel Perrault, de la relation entre le récit du sexe, la façon dont il est raconté, en particulier dans la littérature pornographique, et la réalité. Et d'ailleurs, on a bien du mal, comme le disait Alain Corbin il y a quelques années, à entrer dans la chambre à coucher. Vous avez fait une histoire de chambre, en l'occurrence Michel Perrault, à savoir exactement le lien entre les représentations sexuelles d'une époque et la pratique sexuelle de cette même époque. Et surtout, en le mélangeant, comme le disait Clyde Plumosil, avec les questions de classe. On ne fait pas l'amour de la même manière dans telle classe et dans telle autre, en l'occurrence.
Bien sûr, le corps est historique, le corps est social. Et l'amour se fait aussi avec les gestes et les mots d'une époque et d'un temps. C'est donc difficile, en effet, de connaître le concret derrière les discours. Quelques remarques comme ça, mais vraiment un peu en désordre. La norme du mariage s'impose quand même un peu à toutes les classes sociales. C'est-à-dire que les pauvres ne peuvent pas facilement se marier, mais ils ont envie de se marier parce que c'est bien. Voilà, c'est le statut social et une femme notamment a envie d'être ainsi reconnue. On pense à la noce de Gervaise dans l'Assommoir de Zola. C'est quand même très très important. Les corps ont des désirs. Tout le problème, c'est l'enfant. Comment faire pour faire l'amour sans avoir d'enfant?
On est avant effectivement une contraception moderne.
Absolument. Alors les moyens de contraception existaient depuis longtemps, car les démographes ont bien montré que les sociétés occidentales n'avaient pas du tout le nombre d'enfants qu'elles auraient dû avoir. La grande méthode, c'était le retrait, c'est-à-dire ce que l'Église appelait le péché donnant. Les prêtres étaient très hostiles à ça, très hostiles. Quand une femme allait se confesser en disant « mon mari a des exigences », etc. « Ma fille, vous devez répondre aux exigences de votre mari ». Mais ceci dit, les femmes en faisaient ce qu'elles voulaient. Et le « chéri, fais attention » était une méthode de contraception. Le beau mari est celui qui sait se retirer à temps. Il y avait évidemment d'autres moyens, et dans la bourgeoisie, après 1860 à peu près, la capote anglaise est quand même très répandue, les lavages de toutes sortes, etc., etc. Et on observe bien qu'il y a une réduction des naissances tout à fait importante et qui se diffuse. Voilà. Mais dans les classes populaires, il y avait quand même une révolte. Il y avait une révolte de la part des ouvriers.
Vous avez travaillé, votre premier travail, c'est sur la grève et c'est sur le milieu ouvrier.
Les ouvriers trouvaient que la bourgeoisie était favorisée parce qu'au fond, elle avait les moyens de contraception. Et dans le syndicalisme d'action révolutionnaire d'avant 1914, dans les statuts du syndicat, il y a des articles qui nous surprennent beaucoup. Tu ne feras pas trop d'enfants.
Incroyable.
Absolument. Et il y avait un mouvement néo-malthusien où il y avait des femmes et des hommes, des femmes d'ailleurs très très actives, qui militaient pour la contraception. Donc on voit la volonté et le désir qui s'expriment dans une société corsetée et normée.
Bibia Favard, si on vient sur le XXe siècle que vous connaissez bien, en particulier la deuxième moitié du XXe siècle, mais on peut dire que là, il y a une lente et une longue évolution. On vient de parler de la fin du XIXe, les premières demandes, les premières exigences de ce qu'on va appeler ensuite les suffragettes sur le modèle anglais, la première vague de féministes, ça peut être Marguerite Durand, ça peut être le journal La Fronde, c'est Séverine, ce sont ces auteurs qui, à la fin du XIXe siècle, commence à dire, voilà, ça suffit, cette chape sur laquelle, dans laquelle on est enfermé, il va falloir la faire sauter. Mais c'est lent. Vous nous disiez tout à l'heure, évolution plutôt que révolution, Bibia Favard.
Exactement, j'allais dire, nous n'avons pas encore parlé des féministes qui, quand même, depuis la Révolution française, contestent
cet ordre. Depuis Olympe de Gouges, est-ce qu'on peut la considérer comme une féministe, en l'occurrence? C'est pas tout à fait évident, on la voit comme
cela
maintenant.
Le terme est beaucoup plus tardif, évidemment, il apparaît à la fin du XIXe siècle, dans les années 1870, mais on peut considérer que ces femmes qui revendiquent un certain nombre de droits sociaux et politiques, au moment des brèches révolutionnaires, sont féministes. On peut à poser le terme. Et effectivement, il y a cette vague quand même de contestation de cet ordre de genre qui est présent dès le 19e siècle. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, au 20e siècle, se poursuit en fait cette contestation féministe. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Simone de Beauvoir et du deuxième sexe en 1949, qui vient contester tout ce que vous avez dit sur la naturalisation des femmes, sur le caractère biologique qui explique la domination. On ne naît pas femme, on le devient. Donc c'est vraiment très important dans cette contestation de cette répartition des rôles genrés à partir d'une nature féminine. Alors ça, c'est important. Donc il y a des courants de pensée qui sont importants. Il ne faut pas oublier aussi, pour revenir à ce que vous disiez, qu'il y a un courant de pensée aussi marxiste qui va réfléchir à la sexualité bourgeoise et qui va en faire un repoussoir absolu. Et donc,
mais avec des nuances dans ce courant de pensée marxiste, parce qu'il y a à la fois Jeannette oui. Torres-Vermersch, la femme de Maurice Torres, qui est pour une sorte, là aussi, un peu ce que disait Michel Perrault, un rôle très particulier de la femme à l'intérieur du foyer, à la question de ne pas avoir d'enfant.
Refus absolu de la contraception ouais. de la part de Jeannette Vermersch et du Parti communiste. Voilà. Il faut pas l'oublier. Et Jacques de Rogy, 1956, des enfants malgré nous. Et de Rogy était communiste, il a été exclu du Parti communiste pour avoir écrit ça.
Oui, et il faut dire que dans un autre pan du marxisme, et en particulier au tout début de la Révolution soviétique, par exemple, il y a un moment, avec Alexandra Kollontai ou d'autres femmes, effectivement, où cette question de la liberté sexuelle qui irait en parallèle avec une liberté politique et une révolution politique est à l'œuvre, mais ça va vite se refermer sur la question de l'avortement en particulier, Bibia Pavin.
Oui, tout à fait. Ce que je voulais évoquer, c'est notamment des textes des années 1930 qui sont redécouverts dans les années 60. On peut penser à Ulrich Reich, enfin en tout cas une réflexion marxiste sur la sexualité bourgeoise qui doit être déconstruite, toutes ces normes qui enferment les pulsions, qui doivent être libérées dans une perspective de renversement de cette société de classe. Vous avez tout à fait raison. Donc, il y a des courants de pensée qui jouent un rôle très important. Le XXe siècle se caractérise justement par quelque chose qui, à mon avis, est fondamental, c'est que justement, on rentre dans la chambre à coucher et qu'il y a un développement très important dans la culture de masse des discours sur la sexualité. Et d'une certaine manière, il y a une forme de démocratisation de ces discours sur la sexualité qui sont portés par la littérature, par le cinéma. Dans les années 50 et 60, on a vraiment une inflation de ces discours. Et puis, on a aussi une nouvelle sexologie promeut l'orgasme comme le fondement de l'acte sexuel réussi.
Et ça, ça se trouve aussi dans les journaux. On peut commencer à avoir une présence massive de ces discours sur la sexualité au XXe siècle, entre les années 30 et les années 60, par exemple.
Alors, moi, ce que j'ai plutôt travaillé sur le second XXe siècle, mais ce que je trouve tout à fait frappant, c'est la manière dont, progressivement, dans les années 60, par exemple, dans les magazines féminins, on voit apparaître ce discours libérateur sur la sexualité, juste après la libéralisation de la contraception, la loi Neuwirth de 1967, on commence à avoir des discours d'experts, de sexologues, de gynécologues qui...
C'est d'ailleurs la naissance de ce terme même de sexologie, par exemple, dans ces années-là.
Et vous avez de nombreux médecins du mouvement français pour le planning familial qui prônent ce plaisir, l'importance du plaisir au sein du couple hétérosexuel marié. On reste dans ce cadre-là, dans les magazines féminins, mais vous allez avoir des rubriques régulières de médecins qui répondent aux questions d'électrices. Et puis, évidemment, on peut penser à l'émission radiophonique de Méni Grégoire à partir de 1967, qui joue un rôle important aussi dans cette libération des discours sur la sexualité à travers le recours à certains experts notamment.
Et ce qui est tout à fait passionnant quand on vous lit aussi, c'est de voir qu'effectivement ce XXe siècle correspond à une ouverture des frontières en termes d'idées, c'est-à-dire que Masters & Johnson, ça ne se passe pas sur le territoire européen, ça se passe aux États-Unis, mais on va traduire les travaux sur la sexualité féminine et masculine de Masters & Johnson très rapidement dans le domaine européen, et ça va nourrir cette idée de la naissance d'une nouvelle discipline qui s'appelle la sexologie qui va se développer, et on peut dire que tout un tas de discours vont courir le monde et vont nourrir justement ces révolutions, ces évolutions sexuelles qui deviendront peut-être des révolutions sexuelles, Bibia Pavin.
Alors oui, tout à fait, on est dans un moment de grande circulation, on est dans une culture de masse globalisée. Il y a un rôle très important aussi des passeurs qu'il ne faut pas oublier, je le redis, mais le mouvement français pour le planning familial joue un rôle très important dans la traduction, la diffusion de cette pensée sexologique. Alors évidemment, la culture de masse ne date pas du XXe siècle, il y avait déjà des formes de circulation auparavant, mais effectivement, on voit se développer ces discours dans les années 60 et 70. Et puis, alors, c'est un discours d'abord de libération de ces contraintes bourgeoises, hein, qui sont encore très présentes en vous écoutant. Hein, la virginité pour les jeunes filles, tota mulier in utero, c'est un argument qui est utilisé dans les débats sur la contraception dans les années dans 60. Les années 60. Donc il y a encore des restes hein, de cette
bien sûr,
cette
ça ne se fait pas en un jour.
Hein, donc c'est encore contre ça qu'on va lutter, mais il y a de plus en plus d'acteurs qui vont lutter contre ces normes extrêmement écrasantes, qui sont perçues comme écrasantes à partir de ce moment-là.
Bibia Pavard, ce que vous expliquez bien dans vos travaux sur ces années du deuxième, vingtième siècle, ce qu'on appelle le deuxième, vingtième siècle, à partir des années 50 et 60, c'est qu'il y a des acteurs différents aussi. On a noté les questions de classe, mais il y a aussi des associations qui se créent, le planning familial, vous l'avez cité, bien évidemment.
Maternité heureuse.
Maternité heureuse, effectivement. Il y a aussi des changements de valeurs à l'intérieur des sociétés. Et puis, il y a des relais qui sont pris par, en particulier en France, parce que le rôle de l'État est important, par les politiques publiques. Et c'est cet agencement, pourrait-on dire, entre militantisme d'un côté, changement de valeurs progressives qui sont liés à ce que vous expliquiez sur la vision de la sexualité, en particulier dans le cinéma, dans la presse féminine, etc., et relais politique qui fait la particularité de ce moment, peut-être, Bibia Pavard.
Alors, tout à fait, parce que la manière dont on aborde la sexualité et les rapports hommes-femmes, il y a plusieurs acteurs qui s'en emparent, vous avez raison. Alors, d'une part, il y a des acteurs qui sont plutôt réformistes, hein, qui ont envie de transformer la société, de l'améliorer. Donc là, le planning familial est totalement dedans, mais d'autres associations féminines jouent un rôle important. On peut penser à l'association protestante jeunes femmes. Donc, il y a vraiment une réflexion sur comment améliorer les relations dans le couple, l'épanouissement au sein du couple, hein, il y a une réflexion importante. Il y a des acteurs effectivement publics, alors Lucien Neuwirth qui va s'emparer de ces questions, François Mitterrand d'abord qui avait mis à l'agenda politique la question de la réforme de la loi de 1920 sur la contraception et donc qui considère qu'il faut adapter la loi aux mœurs, hein, que les mœurs sont en train de changer, effectivement. Et puis il y a des acteurs qui sont plus révolutionnaires et qui là considèrent qu'il faut changer entièrement la société et que ces rapports femmes-hommes et ces rapports dans la sexualité sont le symptôme en fait d'une société qu'il faut changer. Et donc là évidemment on pense au mouvement féministe des années 70 qui ont une approche cette fois-ci totalement révolutionnaire.
Jean-Christophe Abraham ici.
Non, juste un petit mot pour parce que tout ce que nous racontons là pourrait laisser penser que même si cette évolution n'a pas connu un mouvement uniforme, irait vers un progrès. Ouais. Or, si jamais ce forum s'organise, c'est autour des mouvements que l'on sait de protestation féminine par rapport au harcèlement, qui ne peut pas être simplement lu comme une forme nouvelle de progrès. Si l'on regarde justement les représentations pornographiques contemporaines, est-ce qu'elles témoignent justement d'un progrès, d'une libération supplémentaire dans les relations hommes-femmes, on peut en douter. Et le discours pornographique contemporain marque, me semble-t-il, une régression. Une oui, vraie régression.
Et on voulait insister là-dessus, d'ailleurs c'est très bien que vous abordiez cette question-là, que effectivement cette question n'est pas linéaire, on ne part pas d'un moment où effectivement les rapports de sexe auraient été dominants pour les hommes, dominés pour les femmes, et tranquillement on irait vers une égalité qui se mettrait en place progressivement. Il y a des rejeux, il y a des contre-révolutions sexuelles en l'occurrence au sein de cette période dont nous parlons, en l'occurrence Michel Perrot.
De toute façon l'histoire n'est jamais linéaire. Et c'est pour ça qu'elle existe.
Il faut toujours le dire.
Il faut toujours le redire. Je voudrais juste une seconde revenir sur ce grand moment qu'ont été les années 70-80. Hein, parce que c'est intéressant pour notre sujet, rapport entre politique et révolution sexuelle. 68 est une énorme brèche. Énorme. Mais on ne parle pas des femmes en 68. Tous les leaders de 68 sont des hommes, des jeunes hommes.
Et quand les femmes se souviennent de 68, elles se souviennent d'une sorte de marginalisation, oui, au sein du mouvement.
Shérif et le café, c'est la fameuse formule. Hein. Bon. Mais les femmes étaient là, dans les manifestations, dans les réunions, et elles surgissent en 70, du coup. Hein. Nous-mêmes, avec le MLF, le Women's Lib, rôle important des États-Unis, qui donne quand même souvent des impulsions, des modèles, et la fameuse formule, hein, our bodies, ourselves, notre corps, nous-mêmes. Notre corps, nous-mêmes. Ça, c'est la grande revendication, et ça permet de comprendre, au fond, tout ce qui se passe encore maintenant. Hein. Notre corps, nous-mêmes, on en prend une conscience absolument forte avec la contraception et le droit à l'avortement. Madame Veil, la loi Veil, il faut le dire. Il faut
1975.
Aussi prolonger, prononcer le mot de Gisèle Halimi, des combats qu'elle a menés dans les procès de Bobigny, d'Aix-Marseille, contre le viol. Tout ça, ce sont des
de la couverture du Nouvel Observateur et les 343 qui signent
voilà.
En disant qu'elles ont déjà pratiqué l'avortement pour pouvoir changer les mœurs, en l'occurrence.
Tout à fait. Et notre corps, nous-mêmes, eh bien, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est encore la revendication.
Bibia Pavard.
Oui, je voudrais quand même revenir sur cette idée d'une évolution qui est non linéaire. C'est très important parce que le terme même de libération sexuelle est contesté par un certain nombre de chercheurs et de chercheuses qui constatent que certes, il y a un desserrement des contraintes institutionnelles qui venaient de l'Église, on n'en a pas encore parlé, mais contraintes religieuses dans la famille, dans l'État. Effectivement, on observe des desserrements de ces contraintes au second XXe siècle, mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que les normes disparaissent, mais elles prennent d'autres formes, et notamment, elles sont plus intériorisées. Et on a parlé de l'orgasme tout à l'heure, et certains insistent sur le fait que l'orgasme devient un devoir, hein, dans les années 60, une nouvelle norme. L'épanouissement sexuel est quelque chose qui est perçu comme normal aujourd'hui et que l'on doit respecter. Donc ça ne veut pas dire que il y a une libération totale.
Ou bien qu'on se détache d'un carcan pour parfois effectivement rentrer dans un autre. Voilà. En tout cas une norme qui peut...
Des normes plus intériorisées mais qui persistent.
Clay Plumosi.
Par rapport à ce que justement viennent de dire Michel Perrault et Bibia Pavard, je pense qu'effectivement ce qui est intéressant, c'est de voir que le combat pour la démocratie et des formes de démocratisation de la sexualité n'est jamais acquis. En fait, ces rapports de pouvoir, ils se transforment et ils se déplacent souvent. Donc de fait, on le voit par cette succession de combats menés peu ou prou par les femmes. On n'a pas parlé des dites minorités sexuelles, mais je pense aussi qu'on comprend très bien ce que Bibia en parle dans ses travaux, très bien ce qui se joue dans le mouvement de libération des femmes, si on voit aussi ce qui se joue chez les prostituées qui commencent à se faire appeler travailleurs et travailleuses du sexe, chez les homosexuels.
Hein, Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR par exemple, et qui existe dès 68.
Qui existe dès 68 et qui, pour le coup, permettent de faire bouger les lignes de l'hétérosexualité et de mettre au jour de nouveaux rapports de pouvoir qui n'avaient pas été nécessairement vus par les mouvements féministes a priori quand le combat s'était focalisé sur la question de la contraception. Donc voilà, et on pourrait parler aussi des luttes qui se passent dans les anciens territoires colonisés. Françoise Vergès a fait son ouvrage sur le ventre des femmes pour montrer que la question de la contraception par exemple pour les femmes noires n'est pas du tout le même enjeu que pour les femmes blanches puisque elles par exemple ont subi des politiques de stérilisation forcée. Donc je pense que cette explosion des acteurs et des actrices qui prennent l'espace public pour parler de la sexualité, des rapports de pouvoir qui la traversent, sont peut-être une des belles novations du XXe siècle. Mais je pense que effectivement le combat n'est pas acquis et qu'il faut toujours rester attentif à leur discours pour comprendre ce qui se joue et de tendre vers plus de démocratie.
Bibia Pavard, on a dit au début, n'oublions pas, il y a le sexe. Il y a effectivement la question de la classe. Au XIXe siècle, c'était évoqué au début de notre discussion. Effectivement, aujourd'hui, des militants et des militantes nous disent bien il y a le sexe, il y a la classe, il y a la race, en réemployant ce terme qui est très marqué par le XIXe siècle, et disent il faut pratiquer l'intersectionnalité, c'est-à-dire il faut réfléchir à ces questions-là en réfléchissant à au mélange et à la conjonction de ces trois données-là, c'est-à-dire le sexe, homme, femme, mais aussi évoquer la question des minorités sexuelles, comme l'a dit très bien Clay Plumosi. Y rajouter la question de la classe, ça n'est pas la même chose d'être dans une classe plus aisée ou moins aisée. Et puis la question, effectivement, de venir, par exemple, de territoires qui ont été anciennement colonisés.
je pense qu'effectivement, il faut toujours réfléchir à quelle sexualité est écartée de la norme, quelle sexualité est marginalisée. Et il y a toujours une sexualité marginalisée, une sexualité qui est toujours perçue comme excessive. Et là, évidemment, la sexualité des classes populaires pose problème, et des jeunes filles de classe populaire pose problème. Et effectivement, il y a toujours aussi, il faut, on n'a pas beaucoup parlé, mais dans la représentation des sexualités, la sexualité des femmes racisées, elle a toujours été perçue comme problématique. Donc, effectivement, certains acteurs prennent la lumière sur ces questions de libération de la parole. On parle beaucoup de libération de la parole, mais il faut toujours regarder quelles sont les minorités sexuelles à un moment donné.
Et ça, c'est une donnée, pourrait-on dire, vous qui avez travaillé depuis si longtemps, Michel Perrot, d'histoire du genre et d'histoire des femmes, c'est-à-dire de toujours complexifier d'une certaine façon. Ça n'est pas facile de complexifier quand des hommes politiques, quand des journaux, quand une société voudrait des réponses claires. Il faut dire, la recherche n'est pas là pour vous donner des réponses claires, mais pour justement vous montrer la complexité de ce type de problème entre intime, espace public, entre vie privée et vie publique, par exemple.
L'histoire est compliquée. Elle est compliquée au niveau des sociétés, elle est au niveau des individus, bien entendu. C'est ce qui fait son intérêt. Elle n'est jamais finie, elle est toujours plus compliquée. Donc, en effet, c'est très important, absolument. Je voudrais juste évoquer le nom de Michel Foucault.
Bien sûr. Parce surtout aujourd'hui, voilà, où on republie...
On republie ses œuvres. Et je crois que s'il y a un philosophe historien et philosophe, qui a apporté quelque chose à la réflexion sur la sexualité, le sexe, etc., c'est Michel Foucault. Donc, je le salue.
Et vous le saluez d'autant plus que vous l'avez beaucoup fréquenté à un moment donné, justement, dans ses travaux, au moment où il menait justement ses travaux à la fois sur la prison, dont vous êtes aussi une spécialiste, mais également ses travaux sur la sexualité, effectivement. Merci donc à tous les quatre d'être venus pour ouvrir cette journée consacrée à sexe et pouvoir ici à la Sorbonne et avoir peut-être un peu complexifié, mais il le fallait justement, ces rapports entre la question de la domination sexuelle entre hommes et femmes et la multiplication des données qui permettraient aujourd'hui de comprendre ce qui nous est arrivé depuis 2 siècles. Merci encore. Voilà donc pour ce débat enregistré samedi dernier à la Sorbonne lors du 2e forum France Culture. Vous allez d'ailleurs pouvoir continuer à écouter cette journée avec tout de suite évidemment Les Chemins de la Philosophie d'Adèle Vendrette enregistré également ce samedi dernier. Remercions le service de communication de France Culture et les services de Sorbonne Université. Aurélie Marcet avait préparé cette émission. À la technique, Andréas Jaffré, Benjamin Thuot, Martin Guénard, Adrien Gaza et à la réalisation Nicolas Berger et Anne Fleury. L'histoire continue sur France Culture ce week-end avec Concordance des temps. Demain à 10h, Jean-Noël Jeannet recevra Antoine Compagnon au défi de la Fange, les ordures de Paris. Et puis la semaine prochaine, eh bien, la Fabrique de l'Histoire vous propose une série d'émissions consacrées à l'année 1958. C'était il y a 60 ans et c'était en Algérie, pendant la guerre d'Algérie.